Les Filles de la Charité sont fondées en 1633 à Paris, dans le contexte de la réforme catholique, donc vaste mouvement spirituel qui traverse l'Église et qui voit de nombreuses initiatives, notamment féminines, et de jeunes filles qui s'assemblent par petits groupes et par affinité pour servir les pauvres et en particulier les catéchiser, selon l'invitation du Concile de Trente, à mieux connaître les vérités de la foi. Alors, les Filles de la Charité sont présentes d'abord, j'allais dire, sur le terrain, dans les paroisses, dans les villes. Et c'est un petit peu ce qui fait leur force, c'est vivre au quotidien avec les plus pauvres. Et quand on regarde les registres de personnes assistées par les Filles de la Charité, les confréries de charité, on voit que ce sont en général les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher, qui donc ne peuvent plus travailler à ce moment-là. Les artisans, victimes d'accidents, il n'y a évidemment pas d'assurance maladie, et donc pendant quelques mois, il faut aussi les aider à se nourrir et à survivre. Et puis les personnes âgées, évidemment pas de retraite, et donc si vous voulez, c'est un cycle de vie de fragilité soutenu par ces Filles de la Charité au quotidien, grâce aux dons faits par les paroisses et par les personnes plus aisées.
Il y a trois figures centrales dans la création et l'œuvre des Filles de la Charité, Vincent de Paul, Louise de Marillac et Marguerite Nézot. Alors, quelle empreinte, finalement, ont-ils laissé dans cette œuvre ?
Trois figures essentielles. La plus connue est évidemment celle de M. Vincent. Mais je voudrais insister sur Louise de Marillac, parce qu'elle a un parcours spirituel étonnant et qui peut rejoindre, je crois, bien des femmes d'aujourd'hui. Elle fait l'expérience très tôt de l'épreuve. Elle est, vous le savez, enfant naturel. Et dans une très belle méditation spirituelle, elle dit avoir fait, dès sa naissance, l'expérience de la croix. « Jésus, dit-elle, m'a mené à lui par la croix. » Et cette croix est tellement lourde à porter que, d'un point de vue humain, elle sombre dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une dépression psychologique. Et c'est en 1623, à la Pentecôte, dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, qu'elle fait l'expérience d'une véritable effusion de l'Esprit Saint, qui va la sortir, qui va lui donner une réponse à sa détresse spirituelle. Et petit à petit, en rencontrant Vincent de Paul, celui-ci va travailler à sa guérison humaine et spirituelle et la préparer par le service des pauvres à fonder la Compagnie des Filles de la Charité.
Y a-t-il une phrase ou un mot qui vous marque plus particulièrement chez un de ces personnages ?
Alors, il y en a beaucoup, et surtout chez Vincent de Paul qui a énormément de phrases truculentes. J'en donne une qui est la plus connue mais qui vaut la peine d'être rappelée. Celle où il dit à ses filles de la charité, « Quittez Dieu pour Dieu. Si jamais un jour un pauvre vous appelle alors que c'est l'heure d'aller à la messe ou c'est l'heure de vos oraisons, laissez la messe, laissez l'oraison, allez aux pauvres, vous quittez Dieu pour Dieu. » Et ici, Saint Vincent s'appuie évidemment sur le chapitre 25 de Saint Matthieu, dans lequel le Christ s'identifie aux pauvres. Les filles de la charité, leur vocation, c'est de servir le Christ à travers les pauvres.
Saint Vincent de Paul a voulu, selon ses termes, donner aux femmes un ministère dans l'Église, le ministère de la charité. Peut-on dire que c'est un charisme spécifique ou, disons, un ministère qui sied plus particulièrement aux femmes ?
Question théologique et question difficile. Je ne sais pas s'il y a une vocation particulière de la femme à la charité. La charité est pratiquée aussi bien par les hommes que par les femmes. Et la grande œuvre vincentienne au XIXe siècle, la Société de Saint Vincent de Paul, fondée par Frédéric Ozanam notamment, est une œuvre masculine. Mais il est vrai que dans l'histoire de l'Église, les femmes ont toujours eu un rôle particulier dans ce ministère de la charité. Et c'est bien celui des Filles de la Charité et avant elles des confréries de la charité, fondées par Vincent de Paul à Châtillon en 1617, confréries où des femmes se mettent en mouvement à l'appel d'un de ses sermons à servir les pauvres. Donc effectivement, l'histoire nous montre que les femmes ont une affinité particulière avec la charité, puis peut-être même avec la foi de manière générale.
Comment peut-on expliquer le succès des Filles de la Charité qui a été fulgurant finalement ?
À l'évidence, les Filles de la Charité répondent à des besoins sociaux. Et si je prends le 19e et le 20e siècle, il est vrai que dans les hôpitaux comme infirmières, dans les écoles comme enseignantes, les Filles de la Charité répondent à une demande sociale extrêmement forte. Et puis il y a aussi des raisons internes, qui est la vitalité spirituelle d'une congrégation nouvelle, qui ici vit évidemment du charisme de ses fondateurs, Vincent de Paul et Louise de Marillac. Alors il y a aussi évidemment pour les Filles de la Charité les grandes apparitions de la rue du Bac au début du XIXe siècle qui ont sans doute joué un rôle dans l'attrait, dans ce siècle marial des Filles de la Charité.
Vous parlez de charisme des fondateurs Saint Vincent de Paul et Louise de Marillac. Quel est ce charisme? Qu'est-ce qu'il nous enseigne aujourd'hui?
si on en fait une lecture un petit peu anthropologique, Dieu tel qu'il est perçu dans la famille vincentienne est à la fois un Dieu d'amour et un Dieu pauvre, enseignement très classique dans l'Église, mais la voie vincentienne consiste à rendre à Dieu son amour, non pas directement, parce que finalement il est impossible à l'homme de rendre l'amour que Dieu lui donne, mais en passant par cette voie que lui propose Dieu, c'est-à-dire en passant par les pauvres. Et ça, c'est un charisme qui, je crois, est toujours d'actualité. La pauvreté ne recule pas, bien au contraire. Les formes de la charité évoluent et les fils de la charité sont toujours présentes et plus que jamais dans les pays en développement, notamment en Afrique et en Asie.
Alors justement, aujourd'hui, la pauvreté n'est bien évidemment plus la même que celle du XVIIe siècle. L'action des filles de la charité est-elle toujours autant d'actualité, que ce soit dans les pays pauvres, dans les pays en développement ou riches occidentaux?
Je crois que c'est le cas dans les deux. Alors pour parler maintenant des pays riches, effectivement, il y a toujours une misère qui est extrêmement importante. Et en cette année où la France a lancé comme grande cause nationale, je crois, la solitude, la famille vincentienne est présente sur ce front qui est davantage celui des personnes âgées et des personnes isolées. Et les filles de la charité travaillent beaucoup plus qu'autrefois en collaboration et avec les services sociaux et avec les autres branches de la famille vincentienne.
Est-ce que peut-être vous auriez une anecdote que vous trouvez peut-être particulièrement représentative de l'action des filles de la charité ou de ses fondateurs ?
Alors une anecdote représentative, je ne sais pas, mais une anecdote amusante que j'ai trouvée dans les archives de la préfecture de police à Paris, ce sont les ordonnances que rend ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le préfet de police, interdisant de battre les filles de la charité qui distribuent la soupe. En effet, la charité finit par faire croire qu'elle est un droit à ceux qui la reçoivent, et quand des personnes ne sont plus admises au secours en pain ou en soupe, certaines, dans les milieux populaires, violents, battent les filles de la charité, et donc ces personnes risquent d'être condamnées à amende. Et donc l'on voit à travers cette petite anecdote que finalement c'est une vocation extrêmement rude, et Saint-Vincent de Paul insiste souvent sur le ressort spirituel nécessaire, et donc la prière, l'oraison indispensable dans le service de la charité pour supporter ces attaques et ces offenses.